Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Premier sujet, puis on aimerait ça encore plus en parler. Ça finit toujours comme ça. On manque de temps. Je pense qu'on est tous passionnés aussi pour ça. Mais dans un autre ordre d'idée, on se retrouve plus du côté, l'autre côté de l'océan.
Oui, donc je vais parler.
T'es pas.
Oui, oh, désolé, j'avais oublié encore d'allumer mon micro. Oui, donc on va parler des élections européennes qui se tiennent du 6 au 9 juin 2024. Donc, c'est des élections très importantes qui se tiennent tous les 5 ans, qui réunissent beaucoup, beaucoup de monde dans l'Union européenne. Donc, c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, près de 400 millions d'électeurs quand même, qui vont désigner 720 députés européens.
Est-ce que ça fonctionne un peu? Il y a des partis, il y a une élection où est-ce que... Puis je sais que la culture européenne, il y a beaucoup de coalitions.
Oui, exactement. Donc, c'est des coalitions. En fait, il y a 7 groupes européens en ce moment. C'est sûr que c'est souvent en changement. Ça dépend des alliances, en fait. Mm-hmm. C'est que chaque pays a un peu ses groupes politiques qui, après, vont faire des alliances avec d'autres partis d'ailleurs. Donc, par exemple, un exemple un peu comme ça, va vite. C'est, exemple, il y a un parti en France de gauche qui est élu. Donc, il va aller parler à l'autre parti de gauche en Allemagne ou en Belgique ou aux Pays-Bas qui a à peu près les mêmes ordres d'idées. Puis, ils vont décider de faire une coalition et créer un groupe pour avoir plus de pouvoir et de poids, justement, dans l'Union européenne. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est un peu des élections. Le nombre de députés varie selon la population des pays. Ouais. Il y a quand même un seuil. Le seuil, je ne l'ai plus devant moi, mais il y a un seuil par pays pour que chaque pays quand même aille un poids. Mais ça reste que le pays qui a le plus de députés, si je ne me trompe pas, c'est l'Allemagne. Et par la suite, ça serait la France.
OK. Puis, admettons, est-ce qu'on peut voir une tendance à, justement, qui là, tu dis, ils se regroupaient beaucoup comme par allégeance politique, qui veut dire comme la gauche va se rassembler ensemble, la droite va se rassembler ensemble. Est-ce que ça s'est déjà vu un peu plus, c'est que ça allait être national? Ou est-ce que plus des enjeux nationaux, donc un parti plus, admettons, de la France, qui va rejoindre et qui est comme gauche-droite, on s'en fout, ça va être juste la France qui va être représentée à l'Union européenne, admettons?
Tout le monde s'unit, en fait. C'est un peu ça ta question. Ça arrive très rarement qu'ils s'unissent. Il y a tout le temps des partis, exemple, on peut penser à des partis un peu plus d'extrême gauche ou d'extrême droite, qui vont jamais rentrer justement dans des échiquiers d'alliances comme ça. Tu sais, on peut penser un peu quand même récemment avec Emmanuel Macron. Ouais. Il a créé son parti et son groupe même à l'Union européenne qui s'appelle Renew Europe. Donc, c'est un parti plus centriste qui va manger un peu de la gauche et de la droite. Mais ça reste que la gauche a quand même son groupe et la droite a quand même son groupe. Ça arrive très rarement qu'un pays j'ai un bloc d'élus. En fait, je pense que c'est jamais arrivé. Là. Vraiment. Okay.
Puis, est-ce que c'est des nouveaux députés qui vont aller là ou est-ce que c'est encore des députés, admettons, qui sont élus dans chaque pays que là, qui vont créer leur coalition en allant parler avec d'autres députés dans
En fait, pays? C'est que il y a un parti qui est justement créé. Donc, exemple, je vais donner l'exemple de l'extrême droite en France, qui est en ce moment le parti Rassemblement National, qui est de Marine Le Pen, où son chef, le président, en fait, le chef, la candidate à la présidence, c'est Marine Le Pen pour en France. Mais le chef du parti, c'est Jordan Bardella, qui lui dirige justement les élections européennes. Donc, lui, dans son but dans les élections, c'est d'aller siéger. Donc, il va nommer une liste de personnes prioritaires, donc, qui va aller justement siéger quand ils seront élus selon le pourcentage qu'ils ont eu. Donc, selon le pourcentage d'électeurs qu'ils ont eu, ils vont avoir tant de sièges. Et selon la liste des gens qu'il a, qui sont un peu, je veux dire, rangés de, exemple, comme à top 30, exemple, je sais pas, ils ont 10%, les 10 premiers, exemple, je caricature, mais les 10 premiers dans sa liste, ils vont aller siéger. C'est souvent ça qui est montré. Et justement, c'est un peu un objet politique de faire que, moi, la deuxième personne qui serait élue, ça serait 8, 3, ça serait 8, 4e, ça serait 8. Mais en fait, ça fait qu'il y a une sorte de... Ça médiatise un peu plus. C'est souvent des grands noms, justement, qui vont essayer d'afficher dans les premiers, qui sont très connus, même si c'est pas lui qui fait le débat.
Okay. Donc, ça arrive et que certains députés ou certaines personnes qui soient aient un double chapeau, comme à l'Union européenne et...
Oui, mais en fait, c'est souvent les mêmes idéologies quand même qui vont véhiculer. Oui, ils ont un double chapeau dans le sens qu'ils vont être, très présents sur la démocratie, exemple, sur la République en France, mais ils vont être très présents quand même à l'Union européenne. Mais on voit aussi quand même que les pays, malgré, exemple, des élus ou des premiers ministres, exemple, je continue sur l'exemple français, ils ont quand même un gros impact dans les politiques de l'Union européenne. Je dirais Emmanuel Macron a énormément d'impact. Il fait tous ses voyages où il amène Van der Leyen, qui est en ce moment la présidente de la Commission européenne. Donc, donc oui, il y a des élus, mais ils sont toujours rattachés tout le temps à leur politique nationale quand beaucoup, peu importe c'est quoi le parti, ils vont être très présents sur les deux, sur les deux échiquiers.
Mais en même temps, les deux sont très interreliés.
Ouais, exactement. C'est très interrelié, là. Et c'est beaucoup aussi de politique économique. Ça reste que, je veux dire, l'Union européenne est née à la base sur des accords économiques et a grandi justement par la suite et a plus une politique un peu différente. Mais ça reste qu'à la base, c'est beaucoup un accord économique pour le maintien de la paix.
Est-ce que tu veux nous parler plus profondément justement de l'Union européenne? Qu'est-ce que c'est quoi les buts? C'est quoi... je ne sais pas si tu es préparé pour ça, là, mais...
J'ai un peu une autre préparation. Je pensais plus parler exactement des groupes, des partis, un peu des sondages. Mais je veux dire, l'Union européenne, comme je l'ai dit, ça vient beaucoup d'accords. C'était des accords commerciaux qui viennent vraiment d'une idée libérale d'après la Deuxième Guerre mondiale
On doit se relever, puis aussi
on doit se relever, puis on comprend, c'est un peu l'idée libérale que la paix se fait par les échanges. Donc, tant qu'on est en échange économique, tant qu'on dépend chacun de l'un et l'autre, ben, il va avoir la paix.
Le marxisme... Le capitalisme.
Oui, c'est l'idée libérale, en fait, et un peu maintenant plus néolibérale qui a beaucoup influencé l'Union européenne, là, qui est vraiment basée beaucoup sur les accords commerciaux. Donc, ils ne vont pas parler de politique... souvent qui est plus d'ordre d'idée. Je dirais, exemple, l'Union européenne n'aborde pas le sujet des ethnies ou quoi que ce soit. On peut voir récemment qu'ils ont quand même plus de politique au niveau de l'immigration ou quoi que ce soit parce qu'il y a l'espace Schengen où il n'y a plus de frontières à travers les pays. Ça reste qu'ils ont une frontière avec les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais il y a une sorte de métamorphose un peu plus. Puis on le voit aussi avec la présidence de Van der Leyen qui... justement, certains partis, certaines personnes en Europe commencent à être un peu, comment on dit, tannées, parce qu'elle empiète beaucoup, selon certaines personnes, personnes disent qu'elle empiète beaucoup sur les politiques nationales. Donc, il y a une certaine délimitation qui est très dure à savoir où ce que l'Union européenne peut aller et jusqu'à où elle peut imposer sa vision sur les pays nationaux.
Donc, c'est un gros débat qui est à savoir est-ce qu'on veut une Union européenne qui est une organisation supranationale ou est-ce qu'on veut juste comme quelqu'un qui... Ça va être comme l'ONU puis ça va être horizontal. Ça va être une place de discussion.
Ouais, ben c'est ça. En fait, ça devient... Ce qui est pratique, puis moi personnellement, je suis très fan de l'Union européenne. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Et ça permet vraiment des grands accomplissements, puis une meilleure globalisation des certains idéaux qui, je trouve, nécessaires, s'appliquent à beaucoup de pays en Europe. Qui relient aussi, parce que quand on partage des valeurs, ça fait ça nous fait des amis, ça fait qu'on ne crée pas d'ennemis. Puis justement, c'est ça qui est important avec l'Union européenne, c'est vraiment le maintien de la paix en Europe. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup, en fait. L'Union européenne est importante maintenant pour tous les partis. Je veux dire, il y a une tendance qu'avant, il y avait beaucoup de partis, surtout dans l'extrême droite, qui voulaient quitter l'Union européenne. Donc, c'était des partis qui étaient juste là pour faire l'opposition. Puis même maintenant, ces partis-là, ils ont changé complètement d'ordre d'idée. C'est plus des réformateurs. Donc, il n'y a plus grand monde qui veut quitter. Bon, il y a eu le Brexit avec l'Angleterre. Ça, c'est vraiment particulier. Bon, c'est vraiment un événement à part.
L'Angleterre était aussi tout le temps un pied... dans la porte.
Ils n'avaient pas l'euro déjà comme monnaie, donc ils étaient toujours un peu particuliers, ils ont toujours voulu rester un peu distants. C'est ça qui est intéressant avec l'Angleterre. Bon, c'est sûr que moi, j'ai parlé à certains de mes amis que je me suis fait justement dans mon échange étudiant anglais, et beaucoup, ils étaient très, très déçus justement de ce Brexit, parce qu'en fait, c'est pour eux, en tant qu'étudiants, ça faisait qu'ils pouvaient aller étudier partout en Europe. Et maintenant, ils doivent débourser des 20 000 $ s'ils veulent, exemple, étudier aux Pays-Bas, alors que c'est ça qui est terrible. Et beaucoup, ils me disaient, en fait, on le voit dans les sondages, c'est beaucoup les personnes au-dessus de 40 ans, 50 ans qui ont voté pour quitter, alors que les jeunes, c'était vraiment, vraiment pas pour ça. Et justement, on le voit aussi au Royaume-Uni, que l'Écosse et que l'Irlande du Nord, c'était beaucoup plus en faveur de rester dans l'Union européenne. Donc, on voit qu'il y a une sorte de fragmentation. Du Royaume-Uni au niveau de l'Union européenne, qui a beaucoup fragmenté. Puis ça a donné un peu aussi de momentum pour le mouvement d'indépendance aussi en Écosse. bon, c'est un sujet, je suis vraiment pas spécialiste, mais il y a de quoi peut-être étudier justement avec l'Irlande du Nord et l'Écosse, comme quoi ils ont vraiment une vision différente de l'Union européenne face à l'Angleterre. Mm-hmm. Mais ouais. Donc, est-ce que vous voudriez que je parle un peu des groupes?
En fait, c'est juste pour vérifier avec toi si tu veux qu'on prenne une pause maintenant ou pour que tu puisses vraiment continuer.
Ouais, ben je pense qu'on va prendre une pause, puis comme ça, après, on va aller sur la lignée plus théorique.
C'est ça qui est difficile, les blocs. Donc, on va aller en pause, on revient tout de suite après. Donc, tu vas poursuivre avec les groupes?
Oui, donc il y a pas mal. Donc, j'étais déjà venu ici à la radio au mois de novembre-décembre, si je me rappelle bien. Donc, j'étais venu justement parler. Donc, je vais expliquer un peu c'est quoi les groupes européens. Donc, il y a quand même beaucoup de groupes. Premièrement, c'est les groupes dans les plus importants, c'est le groupe du Parti populaire européen. Donc, on va les nommer comme les démocrates chrétiens. Donc, c'est du centre-droit. C'est beaucoup relié à l'économie, donc c'est la stabilité économique, puis une certaine identité nationale, que chacun pays garde un peu son identité. Donc c'est soft, c'est vraiment très économique comme parti.
Est-ce que socialement, qui est comme, mettons, il se positionne un peu, ou comme vu que c'est l'Union européenne, on s'en fout?
Ça dépend vraiment des politiques, puis des députés, ça varie. J'ai pas d'exemple en ce moment, mais ça dépend vraiment de certains enjeux. Puis je dirais pas que je suis spécialiste de la position de ces partis-là, donc je ne m'étalerai pas dessus.
Qui est comme justement, il va avoir des positions socialement, où est-ce que ça va être commencé à droite?
Ben, en fait, ça vient beaucoup un peu des partis allemands, qui, justement, en Allemagne, il y a un parti qui s'appelle... qui s'affiche comme chrétien, mais c'est de valeurs. C'est pas nécessairement qu'ils sont chrétiens, donc il y a certaines valeurs qui vont prioriser, mais c'est pas parce qu'on voit le nom chrétien que c'est... il y a certaines valeurs sociales qui sont très poussées. C'est vraiment, ça reste du centre-droit et très soft comme façon de penser. C'est très économique. Très, très économique quand même. Par la suite, il y a aussi l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Donc, il y a le centre-gauche un peu de l'Union européenne qui est beaucoup plus pour la justice sociale puis une Europe verte, en résumé en deux points. Par la suite, un nouveau quand même groupe, c'est Renew Europe, donc c'est du libéralisme social. C'est un peu plus centriste, ça vient d'Emmanuel Macron, c'est beaucoup l'idéologie justement du président français en ce moment. C'est très centriste, très libéral, et ça veut une Europe forte. Donc justement, c'est pour ça qu'il voyageait beaucoup avec van der Leyden. Donc il est très présent, il veut vraiment que l'Europe soit présente, puis s'affiche... comme étant une Europe forte. Par la suite, il y a aussi les Verts, donc, et l'Alliance libre européenne, qui c'est l'écologie et l'économie sociale. C'est du gauche, centre-gauche, on pourrait dire. C'est très sur l'environnement et les droits de l'homme. Ça a été autrefois quand même un groupe assez fort, les Verts, mais on voit qu'ils sont vraiment en chute libre ce moment. Ouais. Okay. Je vais en parler un peu plus dans les sondages, mais vraiment, en novembre et en décembre, ça chutait et ça continue de chuter comme parti qui a de la misère finalement à se retrouver. Puis on le voit même dans les élections en Allemagne, justement, ça découle beaucoup des partis verts en Allemagne et aux Pays-Bas. C'est des partis que les Verts, en fait, ils se rendent compte qu'ils se font un peu ramasser dans les élections, en fait, en ce moment. Par la suite, il y a aussi les conservateurs et réformistes européens, que c'est la droite et droite nationaliste. Donc, c'est un parti fondamentalement de droite. Et ils veulent renforcer le pouvoir national. Donc, ils veulent un peu que l'Europe se calme un peu sur certaines politiques pour laisser plus de place aux nations de décider par eux-mêmes. Donc, un peu plus de l'autodétermination qui veulent le pays. Par la suite, il y a l'identité et démocratie, donc c'est de l'extrême droite, c'est la réduction de la puissance de l'Union européenne dans les politiques nationales. Donc eux, c'est vraiment plus de la droite, de l'extrême droite, c'est de la souveraineté nationale. Ils sont très critiques envers l'Union européenne, donc ils vont vraiment pas se gêner au Parlement de critiquer l'Union européenne. Par la suite, il y a aussi la gauche européenne, donc c'est la gauche solidaire, anti-néolibérale, c'est la gauche, centre-gauche, c'est beaucoup l'égalité sociale et la paix et les droits de l'homme.
Fais attention à ton micro, tu
t'éloignes.
Ouais. Ah, oui. Donc, c'est vraiment la paix et les droits de l'homme qui sont mis en valeur. Et pour parler un peu plus des sondages, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment... je vais vous donner l'exemple, justement, je vous parlais des Verts. Les Verts, en ce moment, ont 72 sièges. Et en fait... faut pas oublier quand même que l'Union européenne en ce moment a 705 sièges et il va avoir une augmentation à 720 justement pour ces élections-là. Donc eux en ce moment, les Verts en ont 72.
Ouais.
Et il y a une baisse, ils vont se retrouver selon les sondages estimés à 55. Donc c'est quand même une baisse de 17 sièges. Et je reste un peu dans cette lignée de la gauche. Les sociaux-démocrates vont baisser aussi de 4 sièges.
Il y en a combien en ce moment?
Eux, ils en ont 140, donc ils vont tomber à 136. Ouais. Donc, c'est quand même une grosse alliance de beaucoup de partis de gauche.
Ouais.
Mais sinon, concernant les Verts, y aurait-tu eu des événements spécifiques qui feraient en sorte que, justement, sont moins populaires?
Ben, en fait, c'est les politiques environnementales qui sont aussi repris par d'autres partis. Ouais. Donc, c'est ça qu'on voit aussi un peu partout dans le monde, ces partis vers là. Oui, ils ont des bonnes opinions, puis c'est vraiment relié à l'environnement. Mais que finalement, la gauche ou la droite commence à essayer de prendre des idées politiques et des politiques que finalement, qui fait que leur particularité vaut plus vraiment la peine des fois.
Ouais,
ce qui peut être très triste, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même compétents dans ces milieux-là. Mais
c'est toujours le débat quant à... Est-ce que la reprise à ce moment-là, c'est une bonne chose ou
c'est
non?
C'est ça. Mm-hmm. Est-ce que, oui, c'est repris, ouais. Mais est-ce que ça va être tenu aussi fermement que, par exemple,
le parti qui n'est pas écrit pour ça?
Exactement. Ouais.
Sauf qu'en même temps, est-ce qu'ils ont forcé en créant un parti, puis que le monde a commencé à voter par eux, est-ce que ça ne crée pas plutôt comme un... OK, ben tout le monde doit maintenant s'y mettre, OK, puis maintenant, ben justement... Tout le monde le met dans sa plateforme, donc il y a une certaine pensée pour l'environnement. C'est ça, la face, c'est un peu les deux côtés de la balance qui est quant à est-ce que c'est bien parce que maintenant tout le monde en parle puis c'est rendu quelque chose plus démocratisé.
Mm-hmm.
Mais...
Ouais, à voir. C'est sûr que les Verts, ils prennent quand même un sacré coup. Mais je dirais pas mal toutes les parties qui sont là depuis un bout, qui formaient des coalitions, ils prennent des coups dans l'Union européenne. Surtout récemment avec le problème, je sais pas si vous avez vu les manifestations des agriculteurs qu'il y a eu partout dans l'Union européenne.
Il y a Enzo qui en a parlé à plusieurs reprises là, dans des chroniques.
Mais c'est ça qui est fou, là. C'est vraiment, c'est pas juste en France ou en Allemagne, là. Ça s'est répété en Espagne, en Pologne, un peu partout en Belgique aussi. C'est quand même un événement intéressant qui a été beaucoup repris puis a été très médiatisé. Et souvent, les gens qui ont essayé de reprendre un peu ce mouvement-là qui viennent des politiciens, c'est beaucoup l'extrême droite. Mm-hmm. Donc, c'est à voir à quel point ça va avantager l'extrême droite dans l'Union européenne. Parce que c'est beaucoup des politiques qui ont fait du mal. Là. C'est quand même des politiques on voit un énervement de la classe agricole dans l'Union européenne, où ils se font imposer justement des réglementations environnementales qui sont complètement correctes, sauf que l'Union européenne fait, que je peux comprendre leur énervement aussi, ils font des accords commerciaux de libre-échange avec des autres pays qui n'ont pas les règles environnementales, donc ils vont font venir, exemple, des fruits d'Amérique du Sud, qui n'ont aucune réglementation environnementale, donc qui sont vendus vraiment moins cher en Europe, alors que les agriculteurs qui, eux, doivent respecter et se soumettre à des règles environnementales, doivent vendre leur prix, mais après, ils ne se vendent pas parce qu'ils sont beaucoup trop chers face aux accords de libre-échange de d'autres pays qui ne respectent pas. Donc, il y a clairement un manque des fois de cohérence justement qui démontre cet énervement-là.
Mais on a même eu des vagues au Québec, qui comme récemment, on en a entendu parler, où est-ce que... parce qu'on a un peu le même problème-ish, puis on peut voir justement à quel point ça peut être un certain problème. Fait que là, c'est est-ce qu'on fait un retour au protectionnisme ou est-ce qu'on garde le libre-échange puis on fait fuck that, on fait une transition et puis on n'aura plus d'agriculture qui est pas mieux parce que là, on largue tous nos problèmes qui est comme sociaux et environnementaux à d'autres pays qu'eux autres, ils vont plus avoir de normes en tout cas.
Mais j'ai l'impression que souvent, on veut trop aller dans les extrêmes. On veut tout de suite. Puis, oui, il faut agir pour l'environnement, mais on prend des virages qui sont trop drastiques. Donc, on ne donne pas non plus le temps de s'adapter. Là, s'il y avait pris le temps de prendre conscience que ça n'a pas de bon sens, là, tu imposes
des règles alors que tes accords de libre-échange font de la concurrence à tes prix locaux. Donc, tu détruis tes marchés locaux.
C'est contre-productif, je comprends.
C'est vraiment... Il y a vraiment un problème là-dedans. Donc, c'est encore en tension, en discussion. Il y a eu des accords, mais c'est encore très...
C'est sûr que... Discutable. Okay. Moi, je suis d'accord avec vous autres tout en n'étant pas en accord. Parce que, comme, mettons, moi, je milite beaucoup pour l'environnement.
Ben oui.
Je suis 100% d'accord que est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas des affaires qu'on fait mal? Probablement. Mais le problème, c'est que les changements climatiques en ce moment, c'est genre, si on suit les derniers rapports du GIEC, okay, il disait, ah ben, mm-hmm. d'ici 2025, okay, si on n'a pas agi puis on n'a pas réduit okay, de quelque chose comme 40% les GES, okay, ben, c'est parce qu'à un moment donné, il va y avoir des affaires qui ne vont plus être arrêtables.
Ouais, absolument.
Mais c'est ça, mais en fait, la plus grosse problématique, justement, que je soulignais, c'est le manque de cohérence souvent des politiques. Voilà. Oui, on impose des normes environnementales, mais pas à tout le monde.
Ouais.
Donc, je suis vraiment pour qu'on impose plus de règles environnementales, qu'il y ait plus de bio, mais si on fait des accords commerciaux de libre-échange avec des pays qui n'ont aucune règle, il y a un manque de cohérence et on peut totalement comprendre l'énervement de certaines personnes, surtout quand on a vu en Europe. Donc, ouais, c'est un gros sujet, l'environnement puis les politiques, puis à quel point l'Union européenne peut s'ingérer justement dans les politiques nationales puis imposer ses règles.
Puis même l'économie à travers ça aussi, là, parce que sinon, comme justement les affaires de les accords de libre-échange, ça rentre dans l'économie puis tout, ou est-ce que souvent, justement, il y a. On met souvent en opposé qui est l'économie versus l'environnement.
Mm-hmm.
Puis, ben moi, ça, c'est un bon exemple.
Oui, c'est ça. Mais moi, le point que je voulais souligner, moi aussi, je trouve qu'il faut agir définitivement, surtout avec ce que tu nous as dit comme, par rapport aux stats. Mais je pense que, justement, il n'y a pas prise de conscience d'une manière adaptée de faire ce virage-là. T'sais, je pense que ça aurait été une bonne... ça leur était pertinent, justement, qu'ils poussent plus loin puis qu'ils regardent est-ce que ça va être l'égalité, mettons, au niveau de la concurrence pour tout le monde? Définitivement pas. Est-ce qu'il y a une autre solution? Puis peut-être même pour pouvoir agrandir les personnes à qui ça s'applique au niveau des restrictions pour que les effets soient plus grands, mais qu'il n'y ait pas une insatisfaction dû au fait que c'est inadapté pour tout le monde. Ben, c'est pas équivalent pour tout le monde.
Ça m'a rendu tellement pessimiste, là, comme à apprendre plus okay, sur toutes les relations internationales puis tout. Je suis comme...
Ouais, c'est très frustrant, là, surtout avec la nouvelle COP qui va être à Bakou, qui est en Azerbaïdjan, qui est un pays qui est très discutable, en opinion.
Ouais. Ben, même avant l'Arabie Saoudite, okay, où est-ce que, il y a plein de pétrolières, okay, comme celui qui était le chef, okay, c'était le chef d'une pétrolière en Arabie Saoudite. Là,
il y a beaucoup, mais justement aussi la Commission sur le droit des femmes, je sais pas si vous avez vu, ça va être l'Arabie Saoudite qui va la présider. C'est beaucoup discutable, surtout que aussi pour l'Azerbaïdjan, il y a beaucoup de problématiques avec les Arméniens. Avec les Arméniens, où il y a des déplacements de population, on assiste certaines personnes dans les médias disent même un génocide culturel. Donc, quel point on donne la visibilité à ces pays-là? Vraiment, surtout l'ONU, là, en ce moment, je dirais qu'ils piétinent dans la boîte. Là. Ouais. Vraiment, ça devient... moi, personnellement, je deviens de plus en plus un peu énervé face à ces mesures-là. Je comprends qu'il faut inclure le plus possible de pays, mais jusqu'à où on accepte certaines politiques où un pays est pétrolier, extrêmement pétrolier, l'Azerbaïdjan, qui reçoit en plus, je veux dire, la coop et en plus commet un certain génocide envers l'Arménie et qui est très connu, qu'on n'en parle pas assez aussi.
Qui n'est même pas reconnu.
Exact. Ouais.
Donc, en tout cas,
ça devient très problématique. Mais bon, pour peut-être revenir un peu sur l'Union européenne, parce que là, on s'étale sur l'ONU. Je vais parler un peu aussi des tendances un peu en France, qui est quand même un pays qui est quand même très relié au Québec puis au Canada, un peu sur les derniers sondages. En fait, il y a un dernier sondage hier qui a été fait en France, où on voit en fait le parti du Rassemblement national, donc le parti de Marine Le Pen, qui des Européennes sont dirigées par le président du parti, Jordan Bardella, qui a quand même un score de 31,5% dans les intentions de vote, ce qui est énorme.
C'est combien de sièges?
En ce moment, j'ai pas les chiffres de combien de sièges c'est, mais ce qui est intéressant...
200 quelques.
Peut-être pas 200, là, parce que 200, c'est vraiment un agglomérat de plusieurs partis qui va se mettre ensemble pour qu'ils aient vraiment tant que ça de sièges. Okay. Ce qui va se passer, qui est très intéressant en fait, c'est que justement dans ce sondage, c'est le parti d'Emmanuel Macron qui est Renaissance, qui peine à avoir 20% depuis longtemps. Là. Ils sont à 18,5% dans les derniers sondages, ce qui est quand même très bas pour parti qui est de la présidentielle, mm-hmm. qui démontre un certain... En fait, ça montre aussi les élections européennes aussi, c'est une forme de désaccord envers la politique nationale, yeah. des fois aussi.
Ouais.
Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans certains pays, on va voir une certaine révolte. On peut voir des fois aussi ici au Québec, quand on ouais. élit une personne ou au Canada, mais que finalement, on a des élections, exemple au municipal, ou qui changent complètement le milieu politique mm-hmm. d'un échelon politique. Ouais. Mais c'est ça qui se passe avec l'Union
comme
européenne.
Comme aux États-Unis avec les élections de mi-mandat.
Là. Exactement. Justement, les élections de mi-mandat, ça fait qu'il y a un changement, puis on voit qu'il y a une tendance politique qui se retourne. Mm-hmm. Ben, c'est justement ça avec l'Union européenne. C'est que des fois, ça nous montre une tendance qu'il y a un désaccord avec l'élite politique du moment. Et c'est justement ça qui est démontré. Et ce qui peine à augmenter, le pire, c'est les partis de gauche en France, qui est le Parti socialiste, qui est à 12%. C'est mm-hmm. très, très bas. Le parti de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même un personnage très
spécial,
on donnera le nom, très polémique, voilà, ouais. je pense que c'est le terme pour le définir, ce personnage là qui est à 8%.
Mais aux dernières élections qui est de Mélenchon, je voyais plein de monde qui était comme Mélenchon,
ouais.
tout, pendant que après ça, qui est comme, on dirait qu'il a pris une tournure et que tout le monde est comme what?
Mais il a toujours été un acteur très 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 discutable dans ouais. ses opinions, parce qu'il est très très expressif, il ne veut pas se gêner, il aime aussi beaucoup la provocation, il aime... Donc, moi aussi, c'est très, très français dans les débats d'aimer ouais. la provocation, je dirais, beaucoup de partis qui sont provocatifs, mais beaucoup de gens, mais aussi, c'est un peu une campagne aussi de l'extrême droite en ce moment, c'est de le décrédibiliser. En fait, ils vont faire des campagnes où ils montrent des vidéos de lui sur certaines opinions politiques qu'il avait en 2005. Et aujourd'hui,
2005,
en 2005, de... en 2010,
20 ans quasiment.
En 2014, justement, ils analysent chaque année.
20 ans,
ouais.
Oh my God.
Et parce qu'il est très présent depuis très longtemps, il a fait partie du Parti mm-hmm. socialiste aussi avant. Et en fait, on le prend, on l'analyse, puis on met un sujet, on voit son évolution dans le discours, puis on le met jusqu'à aujourd'hui. Puis on dit, est-ce qu'il a vraiment ses opinions? Parce que finalement, on dirait juste qu'il fait juste s'adapter pour gagner du vote. Donc, c'est
comme
vraiment
si, François comme Legault. Si les gens ne pouvaient pas changer d'opinion ouais. Avec ce qu'ils prennent conscience. Ouais. Des fois,
c'est ouais. sûr, mais c'est vraiment une très bonne technique pour décrédibiliser. C'est vraiment intéressant, toutes ces politiques-là. Puis ils sont faites à travers toutes les parties, là. Chacun fait ça sur les autres, là. C'est mm-hmm. sûr, mais c'est très axé sur lui. Puis beaucoup de gens ont. Beaucoup de l'élite politique ne sont pas très fans de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est sûr, son parti, il peine à survivre. Il est en dessous des 10%. Là. C'était un parti qui était en pleine montée, mais qui a eu beaucoup de scandales et de problèmes internes, mm-hmm. Avec, particulièrement en France, avec un de ses bras droits qui a été accusé de violence conjugale, où il a défendu.
Oh my God.
Justement, donc il y a beaucoup de problématiques.
On qu'on doit prendre ouais. une pause.
Donc on va prendre une pause et on continuera.
Ben, en fait, on reçoit excusez-moi, j'ai eu un bug. On reçoit en entrevue le Nicolas Dot, D-O-T. Je ne sais pas comment ça se prononce.
T'as vraiment dit, mais...
Ouais.
On lui demande.
Nicolas Dot, exactement, qui est gestionnaire et responsable des relations publiques, qui va venir nous parler d'anti-gaspi et des tendances observées dans la région. À tout de suite.